Mais oui, bien sûr.
Je le savais.
Eureka.
Le courrier a été pendant plusieurs siècles le moyen de communication incontesté. De la lettre d'amour aux cartes postales de vacances en passant par les lettres administratives, ce courrier n'aurait pas connu un tel succès sans le développement progressif d'infrastructures et de réseaux postaux. Si le développement des technologies de télécommunication a plusieurs fois remis en cause le courrier postal sans le faire disparaître, on peut se demander aujourd'hui si la dématérialisation galopante des échanges n'aura pas un jour raison du courrier postal. Courrier, c'est dans la boîte, tel est notre sujet épistolaire du jour. Bienvenue dans Eureka. Et pour faire le tri dans cette histoire du courrier, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Muriel Leroux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse CNRS à l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine. Nous sommes également en studio avec Sébastien Richesse. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire contemporaine et historien au Comité pour l'Histoire de la Poste. Quand on parle de courrier, on parle d'imaginaire. Et l'imaginaire lié à la Poste est aussi beaucoup un imaginaire américain, et notamment le Pony Express.
Eh oui, la voilà, la Malle-Poste transcontinentale, de San Francisco à Saint-Louis en 25 jours. 2700 milles en 25 jours et 25 nuits, à condition que le temps et les Indiens le permettent, et bien davantage dans le cas contraire. Ça ne peut pas se faire, disaient les gens. Ils s'esclaffaient et ils surnommaient la diligence la Malle des bourriques. Mais lorsque courriers, voyageurs et or commencèrent à affluer en Californie nuit et jour, ça leur cloua le bec et leur donna à réfléchir.
On fait déjà un petit bond dans le temps, mais avant d'en arriver au développement des échanges postaux basés sur la vitesse, Muriel Leroux, on peut peut-être rappeler deux, trois fondamentaux. Est-ce que le courrier est aussi vieux que l'écriture? Et est-ce que dès que l'écriture a été inventée, on a essayé de s'envoyer des messages à distance?
Vous avez tout à fait raison. L'écriture et la transmission des messages sont deux histoires parallèles et interconnectées, si je puis me permettre. Et effectivement, on trouve dès le Nouvel Empire égyptien, hein, donc 16e siècle, 11e siècle avant notre ère, la première trace, la première référence d'un courrier royal, et on trouve cette référence dans un poème. Donc, on sait que les anciens, qu'il s'agisse des Égyptiens ou de la Chine ancienne au XIIIe siècle, avaient mis en place des systèmes de relais pour pouvoir échanger les missives, les informations. Et bien entendu, le premier utilisateur était les pouvoirs, hein, qu'ils soient royaux ou pharaoniques.
Sébastien Richesse, qu'a le message écrit de plus qu'un message transmis oralement, et en quoi est-il finalement plus sûr?
Alors, il est plus sûr dans le sens où il est scellé. Donc, personne ne peut le voir, a priori, sauf le destinataire. Et il y a une différence notable, c'est-à-dire qu'il constitue, et notamment pour les historiens, un objet d'archive, la plupart du temps. Puisque, comme les pouvoirs échangeaient entre eux des missives, des messages. On ne parlait pas de courrier à l'époque. Le terme, c'était missive ou message ou pli, ou parchemin. Mais le courrier, c'est un terme générique qui arrivera beaucoup plus tard. Cette matière première, qui comporte des informations stratégiques, politiques, économiques, a souvent servi et sert encore aujourd'hui, jusqu'à nos jours, aux recherches des historiens. C'est l'intérêt principal du courrier.
Muriel Leroux, une réaction?
Oui, alors... Avant, pour compléter les propos de mon collègue Sébastien Richesse, je voudrais préciser qu'avant d'évoquer la notion de pli scellé qui, dans l'imaginaire des personnes qui s'intéressent à cette question, renvoie plutôt au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, les plis, comme le dit Sébastien, avaient d'autres supports que le parchemin. Et dans le cas de l'Égypte ancienne, c'était du papyrus. Mais on a aussi d'autres traces d'échanges qui ont été envoyés selon un réseau et des relais. Et ça peut être sur un support en bois, sur une tablette d'argile. Et effectivement, ce sont ces traces de l'écrit qui nous permettent à nous, historiens, de recomposer les histoires, qu'elles soient politiques ou intimes, hein, puisque j'évoquais des poèmes qui attestait du rôle d'une poste.
Sébastien Richesse, on n'a pas attendu d'avoir des systèmes postaux aussi développés que les nôtres pour avoir des correspondances. Les Romains, les Grecs avaient déjà une pratique épistolaire assez dense, comme en témoignent par exemple les œuvres de Cicéron, en tout cas des lettres de Cicéron qui nous sont parvenues. Est-ce que voilà, ça c'était une pratique déjà courante dans l'Antiquité, cet échange de lettres ?
Courante pour les élites, mais les élites qui sont infinitésimales dans la société tout entière. Donc non, ce n'est pas courant, ça reste même l'exception. Oui. Et envoyer une lettre reste une aventure humaine et technique absolument fondamentale. Il faut avoir bien ça en tête pour comprendre l'odyssée d'une lettre dans ces temps anciens.
Est-ce qu'on peut avoir une idée justement de cette odyssée d'une lettre de Cicéron à cette époque-là ? C'est vrai qu'on n'a pas conscience de l'épopée que pouvait vivre un si petit bout de papier ou de tablette pour rejoindre son destinataire.
Le message est soumis à énormément de circonstances inconnues. La météorologie, la qualité des routes, la rencontre inopportune de malfrats ou de malfaisants sur la route, la présence en temps réel, au moment de l'arrivée du message, du destinataire. Il fallait combiner une foule d'éléments pour être absolument certain que le message arrive à destination. Il faudra attendre de nombreux siècles pour attendre la trace du courrier important, c'est-à-dire le recommandé, et l'invention du recommandé, en France, dans la première moitié du XIXe siècle, pour être sûr que le courrier arrive en sécurité.
Sachant qu'à l'époque, en plus, il n'y avait pas d'adresse postale, pas de code postal, pas de numéro de rue. Là, j'ai sous les yeux un extrait d'un papyrus d'Oxyrhin qui a été envoyé au 2e ou 3e siècle de notre ère. Et l'adresse, c'est la suivante. Destination de la lettre de Rufus, à partir de la porte de la Lune, marche en direction des greniers. Et lorsque tu arrives à la première rue, tourne à gauche derrière les thermes, où il y a un temple, et va vers l'ouest. Descends les marches, monte les autres et tourne à droite et après le péribole du temple, du côté droit, il y a une maison à 7 étages et au fronton du vestibule une fortune et de l'autre côté une boutique de nasses. Demande là où au concierge et l'on t'informera. Crie ton nom, Lucius t'informera. Voilà, là on a un peu une idée aussi de la galère que c'était pour même trouver le destinataire.
C'est tout à fait pragmatisme, sens du concret, savoir du terrain par le messager employé à la tâche, et puis qualité relationnelle, il faut être capable aussi d'échanger avec son environnement immédiat pour trouver tel ou tel type de destinataire. Mais revenons aux usagers du message ou de la missive, ce sont les élites, et les élites au plan local, sont connues. En tout cas, il y a un réseau autour d'elles qui permettent de désigner l'endroit où elles se trouvent.
Muriel Leroux.
Oui, Sébastien a tout à fait raison. Vous évoquez un exemple qui est quasi un contre-exemple, puisque pendant l'Antiquité, le courrier tel qu'on l'entend aujourd'hui était spécifiquement l'apanage du pouvoir impérial, à l'époque impériale. Et il est courant de commettre une confusion, mais c'était extrêmement rare qu'un particulier ait recours et accès à ce type de transport. Il fallait envoyer son esclave ou avoir un courrier privé pour pouvoir transmettre des informations. Le cursus publicus, qui est souvent évoqué dans les histoires générales du courrier, n'avait d'autre but que de servir le pouvoir de Rome et d'asseoir la domination militaire par les fameuses routes, les chariots légers à deux roues qui permettaient d'envoyer les dépêches, alors que les chariots à quatre roues, qui étaient bien plus lents, transportaient de multiples choses et de temps à autre des missives privées. Mmh.
Sébastien Richesse, donc ce cursus publicus est mis en place par l'empereur Auguste entre 27 et 20 avant notre ère. De quoi il se compose concrètement? Quelles infrastructures un petit peu de base on retrouve qui seront colportées ensuite à travers les âges pour l'organisation d'une pré-poste, on va dire?
De routes principales, pavées, larges, modernes, et de positas, c'est-à-dire des positions, l'ancêtre des relais tels qu'ils existeront dans la poste aux chevaux française, mmh. et qui permettent de positas en positas de changer les chevaux, de se restaurer, et de vérifier la qualité de l'équipage pour continuer la course au galop.
L'Empire romain, Muriel Leroux, est extrêmement vaste. Est-ce qu'on a une idée, par exemple, de combien mettaient ces missives à atteindre leur destinataire quand elles partaient, par exemple, de Rome, selon qu'on se trouve, par exemple, je ne sais pas, sur les îles Britanniques, en Gaule, ou bien plus à l'est?
Alors, je ne vais pas dire de bêtises en tentant un calcul mental. Ce que les historiens savent, c'est que à peu près, les chariots rapides à deux roues qui bénéficiaient des relais évoqués à l'instant parcouraient environ 10 à 18 kilomètres. Donc, vous voyez la distance qui sépare Rome du mur d'Adrien. Mmh. Même si c'était très rapide, il fallait quand même plusieurs semaines. Donc, on comprend bien que les 85 000 kilomètres de route de l'Empire romain, je dis ça de mémoire, permettait une domination du territoire, servait un pouvoir politique et militaire, mais n'avait rien de commun avec ce qui existera en Europe à l'époque moderne, à partir en gros du XVIIe siècle. On a vraiment un instrument qui sert une occupation militaire.
Oui. Sébastien Richesse, on parle de l'Empire romain, ça n'est pas le seul empire... On va essayer de sortir un petit peu de l'Europe. Je crois que l'empire de Genghis Khan aussi, qui occupait toute l'Asie et l'Asie centrale, a été un haut lieu de développement des échanges par courrier. Là aussi, c'est vraiment la question de la gestion d'un territoire vaste qui est au cœur de cette structuration d'un système de postes.
Les systèmes postaux, ce sont les vecteurs de gouvernance territoriale des grands empires, quelles que soient les époques. Quelles que soient les époques. Et maîtriser le système postal, c'est maîtriser l'information, comme le dit Muriel, l'extension militaire et le contrôle des vassaux. C'est donc fondamental. On en a perdu aujourd'hui un peu le sens avec l'intermédiation d'autres moyens de communication, mais cette importance, elle reste, par exemple, en France, dans le contrôle d'une poste, juste par exemple à l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981. Louis Mexando, qui est nommé ministre des PTT à l'époque, est l'un des proches de François Mitterrand depuis le congrès d'Épinay, et il est importantissime d'avoir la main sur la poste et les télécommunications au moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir.
Muriel Leroux, alors on va revenir après ce petit détour par 1981 au Moyen-Âge, et puis peut-être à la fin du Moyen-Âge si on doit avancer, puisque on a... deux millénaires d'échanges postaux à courir, ce qui est beaucoup en une heure. Si on en arrive du coup à la France, à partir de quand finalement se développe un système postal qui est un petit peu la genèse de la poste telle qu'on la connaît? Est-ce qu'il faut remonter là au XVe siècle?
Alors, pour faire le lien avec votre question et l'Empire mongol, dans la littérature et dans les imaginaires, il est exact que les postes mongols font référence, parce que, comme je l'ai évoqué pour l'Empire romain, c'est l'instrument de transmission des données, des ordres et aussi de l'impôt qui permet donc la domination de ce vaste empire pendant quasiment 30 ans par Genghis Khan. Et là, on fait le lien avec la le maintien du cursus publicus du côté de l'Empire byzantin, mais de la disparition dans la partie occidentale de l'Europe. Et les modes de communication occupent différents pouvoirs, puisque là, on va retrouver des modes de transport des missives royaux, urbains et bien entendu religieux et universitaires. Donc en gros, ce sont les grands pouvoirs qui, avant l'émergence au XVe siècle d'une poste royale mieux identifiée, vont se charger pour le compte des organisations économiques, religieuses, académiques ou royales, du transport des missives.
Mmh. Sébastien Richez, sur cette invention d'une poste royale autour du XVe siècle en France, quelles sont les priorités établies ?
Mais vous l'avez dit, elle est royale. Il n'y a pas de grande différence avec les principes et les logiques développées au temps des grands empires. Oui. La poste telle que les Français la connaissent encore aujourd'hui, c'est-à-dire autour du courrier, puisque c'est le sens de l'émission collecte, transport et distribution du courrier, c'est le 19e siècle, pas avant. Oui. Avant, ça n'a strictement rien à voir, en termes de dimensionnement, de mise de moyens humains et d'infrastructures, avec ce qu'on connaîtra plus tard. Le 19e siècle est vraiment le siècle où se fonde cette organisation avec le métier idoine, le facteur, les objets idoines. On y reviendra plus tard.
Donc, bien sûr.
Le 19e siècle est vraiment au cœur de la constitution d'une poste dite moderne. Avant, on pourrait qualifier ça de proto-poste ou de proto-système postaux.
Muriel Leroux, on n'a pas encore évoqué un petit peu on n'a pas fait ce travail d'étymologie autour du terme courrier en lui-même, qui est un terme intéressant puisque je crois qu'il désigne à la fois le porteur du message et le message. D'où vient ce mot courrier ?
Ah, excellente question à laquelle je suis bien incapable de vous répondre. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a une polysémie du mot et du terme qui... La polysémie est très ancienne. Et donc, quand on va avancer dans le fil de l'émission vers l'époque moderne, on verra que le courrier était d'abord un homme qui portait les lettres à cheval et qui, très souvent, précédait la charrette, puis la malle, qui transportait un volume plus important de courrier. Mais je trouve que Sébastien Richez est un peu excessif quand il dit qu'avant le 19e siècle, on a une proto-poste. Notre bon roi Henri IV, pour reprendre une image d'Épinal, crée un certain nombre de relais qui avaient été pensés avant. Lui en augmente le nombre et surtout ouvre les postes royaux aux particuliers qui doivent acquitter une taxe à la réception. Donc ça reste une pratique des élites, mais qui permet aux bourgeois des villes ou aux aristocrates ruraux quand même d'échanger, de communiquer quasiment de façon régulière. Et en 1630, on aura quand même 20 circonscriptions postales qui seront dénommées comme telles. Donc oui, c'est vrai que les postes royales n'ont rien à voir en termes de régularité et de volume,
dimension, oui.
Et de dimension avec ce que le 19e siècle connaîtra, mais il y a quand même des efforts continus entre Henri IV et le facteur rural de 1830 pour améliorer la qualité du service. Mmh. Et d'ailleurs, qu'on ne s'y trompe pas, Louis XIV sera intéressé par cela. Louvois créera une ferme générale. Donc, il y avait de l'argent à se faire en transportant un plus grand nombre de missives.
Sébastien Richez, avant qu'on arrive à ce fameux 19e siècle qui est le boom véritablement de la communication par voie postale et c'est vraiment là que ça marque sa grande, grande démocratisation, on peut peut-être parler évoquer peut-être de façon un peu plus anecdotique des inventions qui sont consubstantielles à l'invention du courrier postal, comme la boîte aux lettres, par exemple. Elle n'a pas toujours existé. Ça vient d'où? C'était quoi à l'origine une boîte aux lettres? Je crois que ça vient de Florence. Et l'objectif de base n'était pas si positif que ça.
Non, alors on décèle des pratiques anciennes de boîte aux lettres, mais qui ne sont pas des boîtes administratives dédiées à cela tout le temps, servant de réceptacle à des messages plus ou moins cachés, pour des relations parfois amoureuses cachées, pour des relations entre personnes sans avoir vraiment d'officialité. Mais y a rien de très organisé ni de systématisé. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. C'est qu'on, ça relève souvent de l'artisanat. La boîte à lettres telle que vous la connaissez, c'est une création, alors, à la fois du XVIIIe siècle par le système des petites postes.
La petite poste, par rapport à la grande poste qui est le bâtiment.
Sur le mur de laquelle il y avait une boîte à lettres, une fente, à l'intérieur de laquelle on glissait un pli, mais les petites postes qui étaient un système privé, une initiative privée, pour s'occuper des lettres de la ville pour la ville, système qui a fusionné ensuite avec la grande poste avant la Révolution pour créer le système postal tel que vous le connaissez encore aujourd'hui, c'est-à-dire collecte et distribution. Bien, ces boîtes aux lettres ont poussé à Paris au milieu du XVIIIe siècle et se sont diffusées partout en France à partir de la grande loi de 1829, loi dite du service rural, qui a diffusé les facteurs ruraux partout sur le territoire, mais qui a aussi amené à l'implantation d'une boîte à lettres dans chaque commune de France.
Et ça, c'est bien sûr dû à l'explosion de la poste, on va en parler dans un instant.
Le cinéma passait un film sur les postiers américains, alors vous pensez si...
Oh, mais il paraît que t'as à peine le temps de mettre ta lettre à la boîte que tu l'as déjà.
Oh, comment ils font pour distribuer les lettres dans les gratte-ciels?
Bah mon vieux, ils leur mettent une hélice en dedans.
Les Américains, en l'air. Ça va battre. Allez.
Ah mon vieux, les Américains, alors, pas l'erreur, tiens, rapidité.
Ah bah quand toi tu tombes bien alors, tiens, t'as une lettre. Allez, je vais en Amérique, non? Hop,
à l'américaine, fini.
France Culture, Eureka, Antoine Beauchamp.
On ne pouvait pas évoquer le courrier postal et les facteurs sans penser à Jacques Tati à jour de fête. Muriel Leroux, on en arrive au tournant du 18e et du 19e siècle, par exemple. Alors, bon, la Révolution française, qu'est-ce que ça a changé radicalement dans le rapport aux échanges par courrier et quelles, finalement, principes ont été mis en place pour ces échanges par courrier après la Révolution française?
Bah, déjà, la Révolution française met fin aux pratiques de la ferme des postes. Donc à partir de 1793, si je ne dis pas de bêtises, on a un système de postes qui est accessible aux citoyens, mais comme la Révolution ne veut pas désorganiser le système qui préexistait à cet événement, elle garde dans son sillage les maîtres de poste qu'elle rémunère à l'année. Donc, on voit combien pour la Révolution française qui crée finalement les postes modernes, puisqu'elles sont désormais accessibles à tous les citoyens. Cette organisation politique est fondamentale, notamment dans la transmission des informations politiques, militaires, mais aussi, dès cette époque, des journaux.
Sébastien Richez, il y a aussi une notion de préservation de l'intimité du contenu de ces échanges postaux. Je crois que la Révolution française met fin au fameux cabinet noir qui, sous l'Ancien Régime, contrôlait un petit peu les échanges. Et puis, bah, n'hésitez pas à intercepter des courriers d'opposants politiques ou de dissidents. Ça, c'est aussi quelque chose de capital dans la mission du facteur plus tard, c'est de préserver ce courrier.
Alors, le cabinet noir, il va renaître au XIXe siècle, sous le Second Empire.
Ça ne meurt jamais, ce
mais
genre
le sujet postal est dans les cahiers de doléances. Je crois que c'est ça l'importance. Mmh. Et des cahiers de doléances va naître ensuite le serment professionnel des postiers de 1793 qui les engage à protéger le caractère inviolable de la lettre. Ça, c'est fondamental parce que c'est ce qui fonde encore la relation de confiance entre les Français et les postiers qui prêtent encore serment, sachez-le, aujourd'hui. Et la Révolution, c'est, en tout cas le moment de la Révolution, juste avant, c'est un sujet organisationnel. Petite poste, poste aux chevaux et poste aux lettres fusionnent pour maîtriser l'intégralité de la chaîne de traitement du courrier. C'est neuf parce qu'avant, ces organisations étaient scindées et dépendaient de tutelles différentes. Et c'est une vision enfin économique, mais il faut voir la fin de la comète de la Révolution, fin du consulat, début de l'Empire. Napoléon va adjoindre une administration des postes définitivement formée au ministère des Finances.
Et là, du coup, se crée finalement une sorte de monopole autour des échanges postaux.
Tout à fait. C'est aussi la grande décision de la Révolution, c'est-à-dire donner à l'administration des postes le monopole sur les différentes catégories de courriers.
Muriel Leroux, le lancement officiel de la Poste française, c'est 1830. Quel contexte épistolaire on peut dessiner pour cette naissance de la Poste ?
Ah, je dirais plutôt 1804. Hein, là, Sébastien Richesse vient d'évoquer Napoléon avec la direction générale des postes qui est adossée au ministère soit de l'intérieur, parce que c'est quand même sensible, soit de l'économie tout au long du 19e siècle. C'est ça, parce que effectivement, l'unification des postes qui a existé, qui arrive juste avant la Révolution, par cette événement politique majeur montre que on ne peut communiquer, échanger et organiser soit un système politique, qu'il soit national, régional ou local, soit un système économique sans ces données. Et donc, ce qui va être la grande caractéristique du 19e siècle, outre l'organisation qui va embrasser le territoire comme un tout, c'est aussi une quête continue de la maîtrise du temps qui commence dès le XVIIe siècle, mais c'est vraiment au XIXe siècle qu'il va y avoir une corrélation entre un service qui est devenu public, hein, et ce n'est pas la Révolution qui le rend public, on a vu que c'est vraiment l'Ancien Régime, la Révolution l'ouvre à tous les citoyens, mais à partir du 19e siècle, qui veut être informé ne peut faire l'économie de l'usage de la poste.
C'est la rapidité dont parlait le facteur de Jacques Tati, mais ça c'est exactement intéressant, c'est très intéressant d'ailleurs cette idée-là, Sébastien Richesse, c'est qu'on a l'impression que, quelle que soit l'époque dans laquelle on se place, le courrier est toujours porté par le moyen de transport le plus rapide de son temps, et ça a toujours été ça.
Jusqu'à l'immixtion du téléx, puis du message informatique, puis du digital, la poste est une valeur étalon. Au XIXe siècle et sous l'Ancien Régime, on court la poste, on voyage en poste. C'est dans le langage courant. C'est-à-dire, on va le plus vite possible selon les moyens de transport à disposition. Et l'histoire de l'acheminement du courrier est celle d'une histoire des mobilités, une histoire des moyens de transport, de ceux qui ont effectivement existé, mais aussi de ceux qui ont pu être fantasmés. Pas administration des postes. Le facteur a quasiment utilisé tous les moyens de transport à sa disposition dans différents types de territoires en fonction des topographies. Et la poste a imaginé utiliser tous les moyens à sa disposition pour l'acheminement en masse de la fusée postale à la poste pneumatique.
En passant par le pigeon voyageur, même si bon, le pigeon voyageur c'est quand même un petit peu marginal.
Plus dans une dimension militaire en réalité. Ballon monté, pigeon voyageur avait d'abord une application politico-militaire. La Poste n'a pas vraiment utilisé ces moyens de communication. On est plus sur la voiture à chien, les échasses, les skis, l'automobile, à partir du programme d'automobilisation au milieu des années 50. La bicyclette, évidemment. Vous avez passé un morceau sonore de Jacques Tati qui va, je dirais, ancrer cette image d'Épinal d'un binôme professionnel inégalé dans les imaginaires, le facteur et sa bicyclette.
Et Muriel Leroux, bien sûr, on ne se passe jamais du train dans l'histoire du courrier postal. Je crois même qu'il y avait un service qui s'appelait le service des ambulants, où on faisait le tri dans le train même. Là, c'est vraiment toute une époque qui est un petit peu révolue maintenant.
Ah oui, absolument. Mais pour revenir à cette notion de maîtrise du temps, il a fallu éduquer les usagers de la poste et partout dans le monde, parce que ce sont ces administrations qui ont développé le principe de l'horaire, de la régularité, et qui va aboutir en fonction des modes de transport choisis, dont le chemin de fer, à une forme de conditionnement de la vie en fonction du rythme des levées de boîtes, de la collecte, du transport et des horaires de distribution. Et c'est pas du tout neutre parce que nos sociétés aujourd'hui qui sont extrêmement connectées et qui regardent, dont les membres regardent toujours le temps passé les postes ont contribué à ce façonnement collectif, puisque pour que l'organisation fonctionne, en plus de l'usage de la technologie, on doit avoir des usagers qui respectent l'organisation, les horaires. Et pour répondre plus précisément à votre question, oui, bien entendu, avec le chemin de fer naît cette pseudo-aristocratie des postiers, à savoir les ambulants qui montent dans un train, trient pendant le trajet et restituent à leurs collègues qui vont distribuer les courriers, les petits paquets et les journaux à l'arrivée. Et ces ambulants ont existé jusqu'en 1995, date au moment où le TGV postal en œuvre au sein de la Poste depuis les années 80 exclut cette pratique du tri, puisque on met 2 heures pour faire Paris-Lyon.
Sébastien Richez, on le voit, donc le 19e siècle, c'est un siècle de la standardisation des échanges postaux qui est liée à des nouveautés technologiques et à des inventions. Il n'y a pas que des innovations techniques, il y a aussi des innovations un petit peu plus lié à l'économie de la poste, l'invention du timbre aussi, ça c'est intéressant, ça n'a pas toujours existé le timbre. C'était assez onéreux d'échanger des courriers postaux avant l'invention du timbre. Ça vient d'où le timbre ? L'anecdote est assez rigolote, je crois, ça vient d'Angleterre. Et c'est un constat d'un des responsables de la poste victorienne qui s'est dit, tiens, on va inventer un moyen de faire payer le courrier.
Oui, mais là, on a les mêmes anecdotes pour la France. Il faut savoir que c'est au début des années 1830 qu'un administrateur des postes conceptualise le concept de vignette pour affranchir le courrier avant sa destination. Les anecdotes classiques sont celles d'un courrier systématiquement refusé par le destinataire parce qu'il était trop cher, mais grâce à un système de traces ou de marques convenues entre les deux correspondants avant qu'ils ne se séparent, on pouvait voir que l'autre se portait bien et on refusait la lettre tant et si bien que l'argent ne rentrait pas dans les caisses de l'État. Donc le timbre poste est une révolution conceptuelle de la correspondance. Ça va être désormais à l'expéditeur de payer le port de la lettre et non plus au destinataire. Pour les caisses de l'État, c'est un progrès immense. Et pour l'investissement et la structuration des infrastructures de la Poste, c'est aussi un bouleversement fondamental. Et puis, les coûts vont progressivement baisser avec l'instauration de ce timbre.
C'est quand même c'est une invention plutôt vertueuse parce que justement, ça permet de tout standardiser et d'équilibrer ces coûts des courriers. Muriel Leroux, vous souhaitiez réagir ?
Oui, en soulignant que cette invention du timbre qui est pour la France la résultante des républicains de la Seconde République s'est accompagnée d'une notion qui est fondamentale pour la démocratie en général, à savoir la péréquation. Désormais, avec le timbre, on ne paie plus l'affranchissement au nombre de pas ou au nombre de kilomètres parcourus, mais quelle que soit sa domiciliation et son destinataire, le prix est le même pour tous les citoyens. Et ça, c'est fondamental, car ça permet aux petites entreprises, aux petits commerçants d'échanger avec leurs fournisseurs, mais ça permet aussi aux opposants politiques de s'envoyer des informations, même si je sais très bien que Sébastien Richez va nous dire que les postes étaient surveillés. Il n'en demeure pas moins que la péréquation nationale est quelque chose qui prévaut toujours aujourd'hui et a été inclus dans les missions de service universelles qui sont assumées par l'entreprise en 2022. Donc nos républicains avaient quand même dans l'idée de faire accéder au plus grand nombre à ce service public.
Qui eût cru que le courrier et les échanges postaux recouvraient autant de paramètres et d'importance finalement dans nos vies sociales, dans nos vies collectives ? Restez avec nous parce qu'on n'a pas fini de faire des découvertes, ce sera juste après ça. Please, Mr. Postman, par The Marvelettes dans Eureka sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de l'histoire de l'invention du courrier postal et nous en parlons avec Muriel Leroux, chercheuse CNRS à l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine. Nous sommes également en compagnie de Sébastien Richesse, docteur en histoire contemporaine et historien au Comité pour l'Histoire de la Poste. Alors, on va en venir justement, Sébastien Richesse, après avoir posé un petit peu le décor de ces premières infrastructures conséquentes de la Poste aux usages. Est-ce que, à partir du moment où se développe la poste et puis l'alphabétisation quand même au 19e siècle, on constate un succès grandissant de ces échanges interpersonnels de lettres, de personne à personne, qui ne sont plus cette fois des courriers administratifs, politiques liés au pouvoir.
Le zénith du courrier interpersonnel, c'est la Première Guerre mondiale. Les jeunes Français ont appris à lire et à écrire. Certes, pas tous dans une langue écrite unifiée, bien sûr, mais la durée de la guerre, la durée de la séparation des hommes et des femmes va faire qu'on va connaître le premier grand pic d'essor du courrier. Je vous donne juste les chiffres qui sont vertigineux. 3 milliards de plis en France en 1913, 12 milliards en 1918. C'est accompagné par l'État qui accorde la franchise, c'est-à-dire la correspondance gratuite pour les lettres venant aux poilus ou partant des poilus, mais va s'installer la pratique de la correspondance sur le temps long. C'est le moment phare pour la correspondance interpersonnelle. Sachez que déjà, en 1966, il ne reste plus que 30% du courrier qui est interpersonnel. Le reste, ce sont des échanges économiques, administratifs, sanitaires, juridiques, professions libérales, courrier de l'État, etc., etc. Donc le moment phare du courrier interpersonnel, en fait, il dure moins d'un demi-siècle en termes de masse majoritaire dans les flux de courriers au XXe siècle.
Mais quand on parle de telle masse de courriers, Muriel Leroux, on se dit qu'il faut quand même des infrastructures qui doivent suivre. Alors comment est-ce qu'on organise ça? Ça, c'est très intéressant malgré tout dans l'histoire du développement du courrier et de sa propagation. C'est qu'il faut bien qu'il y ait des systèmes qui ne puissent pas être engorgés et qui puissent être réactifs et réagir rapidement.
Alors, l'organisation postale en France et dans nombre de pays européens, est toujours sous le feu de la rampe de la presse et des députés du pouvoir législatif. Et j'en veux pour preuve un texte assez connu quand on travaille sur l'histoire des organisations, celui d'Henri Fayol de 1921, qui rappelle le titre, par son titre, les difficultés à gérer ce réseau, l'incapacité industrielle de l'État. Parce que la Poste, c'est avant tout un réseau industriel avec route, centre de rassemblement, de tri, outils d'acheminement terre, air, mer, et la distribution. Et la Poste, c'est un réseau humain qui s'appuie sur, en fonction des époques, on va dire en moyenne tout au long du XXe siècle, 17 à 20 000 points de contact qui permettent aux Français d'avoir accès aux services spécifiques. Il y a un nombre très élevé de facteurs. Alors, Sébastien me corrigera au mieux du nombre de cette catégorie de travailleurs, 150 000 facteurs, aujourd'hui encore 60-70 000. Une infrastructure, une flotte de véhicules, qu'ils soient hippomobiles ou automobiles. Et par exemple, pour le pouvoir politique du milieu des années 70, une grève de camions jaunes permettait de paralyser toute la vie de la France. Donc, on a cette infrastructure. Mais aussi une infrastructure internationale, parce que ça, c'est un aspect qu'on n'a pas évoqué. La Poste et les postes internationales, depuis 1874, sont rassemblées dans une union postale qui implique entre les États la réciprocité du service accordé. Et c'est fondamental, notamment pour échanger avec les colonies et les empires, mais aussi pour le développement des jeunes États après les indépendances.
Il y a une importance cruciale de la poste et des échanges postaux dans la naissance et dans l'essor de la mondialisation, Sébastien Richez. Alors même la première mondialisation, moi j'y réfléchissais en préparant cette émission, je me disais mais comment, quand les conquistadors partaient au Nouveau Monde, ils envoyaient des missives et comment ces missives faisaient pour arriver, sachant qu'eux-mêmes ne savaient pas bien par quel itinéraire ils étaient passés. Bon bref, voilà, c'était mes petites rêvasseries personnelles.
Ça nous fait revenir à l'odyssée du courrier, voilà, c'est ça, du début de l'émission.
C'est toujours une odyssée. Alors, on parlait à l'instant de cette participation du courrier postal à la mondialisation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout à l'heure, on évoquait le fait qu'on installe des boîtes aux lettres dans chaque commune rurale. Ça, c'est intéressant. La Poste aussi a participé au désenclavement de ces communes et leur a donné un accès au monde, malgré tout.
Tout à fait. Alors, Muriel a évoqué la place de l'humain. La Poste est une organisation de main-d'œuvre. La place du réseau, la place des techniques de transport. N'oublions pas aussi que la Poste a eu sa propre action sur les objets pour faciliter leur acheminement. Dans les 30 Glorieuses, après la Seconde Guerre mondiale, le taux de croissance du courrier est de 6 à 8% par an. Dans les années 60, on estime que dans les années 80, le courrier aura doublé et qu'on sera incapable de s'en servir. Donc on imagine tout un programme de normalisation du courrier auquel il va falloir acculturer les Français. Et la première mesure de normalisation du courrier, c'est cette fameuse opération du code postal, le programme code postal.
Qui arrive assez tard finalement dans...
Alors qui commence en 65, la France n'est pas pionnière, il y a déjà des grands pays qui ont adopté des formes numériques, alphanumériques ou combinaisons... de chiffres et de lettres pour organiser l'acheminement du courrier. En France, on fait le choix du numérique, d'abord à 2 chiffres, avec l'indicatif des départements, puis à 5 chiffres, avec une touche d'intégration postale sur les lieux de distribution, auxquels on va acculturer les Français grâce à des catalogues qui seront en accès libre dans les bureaux de poste, avec des campagnes publicitaires. Lorsque vous allez à l'INA, vous trouvez les campagnes publicitaires de l'époque qui sont très drôles et qui doivent marquer le coup. Il faudra presque 6 ans pour que 90% du courrier en France soit correctement codé. Mmh. Et donc... le programme d'industrialisation des centres de tri soit vraiment pertinent et efficace. Et ce programme de normalisation, il va courir jusque dans les années 90 avec la création, figurez-vous, de l'enveloppe à cases et à lignes pour correctement écrire l'adresse bien droite et mettre les chiffres dans les bonnes cases afin que les lecteurs optiques lisent correctement les adresses et puissent les indexer grâce aux fameux bâtons verticaux du code postal. Donc il y a tout un programme industriel fondamental qui court dans la deuxième moitié du XXe siècle.
Muriel Leroux, sur ce point-là, une réaction ?
L'industrialisation des métiers de la Poste a été l'objet de recherches et de développement continu. Pour compléter les informations que Sébastien vient de vous donner sur l'indexation, qui complète la mission de service public de desserte du courrier partout, par tous les temps, pour tout le monde, la technologie a dû permettre a dû donner les moyens aux postiers d'accomplir cette mission. Or, l'indexation évoquée par Sébastien a été l'objet de recherches et de développement jusqu'à une époque très récente, jusqu'aux années 2000, et j'en veux pour preuve que la lecture optique de nos adresses est un procédé technique qui a été transféré sur nos routes, et c'est le même procédé technique qui permet aujourd'hui aux radars fixes de photographier les véhicules qui ne respectent pas les limitations de vitesse. Donc, on a une adéquation entre la notion de service public et la recherche technologique.
On parle d'industrialisation, de technique, de normalisation, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un certain romantisme de la lettre ou bien même de la carte postale. Avec ce genre d'histoire de cartes envoyées qui ont mis des années arrivées, écoutez cette archive de 1980.
Mieux vaut tard que jamais, un septuagénaire de Villeurbanne, M. Rochette, a reçu le 8 août dernier une carte postale qui avait été postée en 1924. 56 ans pour faire quelques kilomètres, c'est un joli record, M. Rochette l'admet, mais il est surtout furieux car on lui a fait payer une surtaxe. Il faut savoir en effet que le timbre mis à l'époque sur cette carte postale avait disparu au cours de cet incroyable voyage de plus d'un demi-siècle. M. Rochette au micro de Gérard Garin-Michaud.
Je pense que c'est encore absolu du monde, comme d'une part la lenteur du courrier et d'autre part la sûreté de nos services de PTT. Je rentrais de Vouneret. Et dans ma boîte, je trouve une lettre qui me convoquait pour un objet recommandé. Je vais à mon bureau de poste, rue des Charpettes. Et l'objet, on me sert une vieille carte postale. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, donnez-moi 200 francs anciens. Je dis, mais je voudrais savoir ce que c'est. Moi. Alors, comme l'objet m'intéressait, j'ai donné 200 francs. Et... Alors, tout fort, j'ai dit, messieurs, dames, vive les pétés, ils font du doigté. Rien ne se perd. À tout le cinéma, tout le monde rigolait. Ça m'a coûté 200 francs, moi qui ai l'habitude d'envoyer tout mon courrier et mes coups de téléphone en PCV. J'étais vraiment vexé.
Sébastien Richez, une réaction à cette anecdote.
Oui, en écoutant ce témoignage, je m'aperçois que le rouleau compresseur administratif doit passer de toute façon. Comme le courrier qui doit passer, d'après le slogan de l'aéropostale. Mais là, le rouleau compresseur administratif n'oublie pas de récupérer l'argent de toute façon. Alors, cette anecdote, elle est sympathique puisqu'elle revient assez régulièrement dans les médias. Tous les 5-10 ans, on a ce genre de mention qui doit s'expliquer aussi par le fait que ces immenses machines de tri dans les grands centres de tri ont parfois des fuites, entre guillemets. C'est-à-dire que des lettres se glissent dans les mauvais interstices et passe derrière les machines, etc. Et c'est à l'occasion des grands nettoyages annuels ou réguliers que les postiers font dans les centres qu'on extrait parfois des lettres qui ont fossilisé dans un coin et qu'on n'avait pas aperçu, ce qui permet de les réintroduire dans le système postal jusqu'au bon destinataire. Ça me fait évoquer aussi le lien avec la poste, le bureau des rebuts, créé au milieu du XVIIIe siècle, déplacé dans les Trente Glorieuses à Libourne, en centre de recherche du courrier, et qui est l'endroit où sont concentrés ce que moi j'appelle les postiers fins limiers, qui sont autorisés, les détectives, seuls d'ailleurs, à ouvrir les lettres pour soit retrouver le destinataire, soit renvoyer la lettre à l'expéditeur, et qui ont depuis le milieu du XIXe siècle, donc un siècle après la création du service, un taux d'élucidation oscillant entre 30 et 50% annuellement, ce qui est assez remarquable.
Muriel Leroux, une réaction ?
Oui, je voulais juste compléter les propos de Sébastien en soulignant que jusqu'à une date récente, le centre de Libourne recevait à peu près 20 000 plis égarés tous les jours et que contrairement à la critique de votre témoignage sonore, les postiers ont fait leur travail jusqu'au bout. Je sais que mes propos sont tout à fait provocateurs, mais la lettre est arrivée. Et ça, c'est aussi une grande différence avec les messageries privées. C'est-à-dire que le personnel assermenté a le devoir de remettre le courrier à la bonne personne. Alors évidemment, quelquefois, ça prend du temps, beaucoup trop de temps, mais il faut savoir que le postier qui jette le courrier ou qui écrit sur les enveloppes est sanctionné et quelquefois très sévèrement. L'exemple le plus connu, c'est le postier qui, pour des raisons personnelles, politiques, écrirait sur un courrier adressé au président de la République. On a comme sanction une mise à pied. Donc, le respect du courrier, son secret, sa confidentialité et la nécessité de le délivrer à la bonne personne restent des valeurs fortes.
Puisqu'on parle du postier, c'est pas Sébastien Richez, c'est intéressant parce que pour nous c'est une figure commune, on le croise dans nos villes, dans nos campagnes. Quand est-ce que cette personne-là est devenue vraiment une figure aussi capitale que le boulanger, la boulangère, le maire, la mairesse? Voilà, quand est-ce qu'on... Alors, date cette professionnalisation.
Le postier dans son ensemble, je ne saurais dire, mais le facteur en tout cas, c'est éminemment aussi la Première Guerre mondiale. Ouais. Il y a une imagerie populaire très forte à l'époque, où on voit notamment sur des photos ou des planches, des femmes accoudées aux fenêtres ou au pied des immeubles qui attendent le passage du facteur, de plus en plus assimilé à Saint-Désiré, celui qu'on attend. Et ce lien particulier, il se crée vraiment là, d'après ce que moi je ressens. Et c'est à partir de ce moment-là que le facteur va devenir l'un des personnages professionnels préférés des Français, avec cette aura amplifiée par la culture, le cinéma, la chanson populaire, qui lui donne une place vraiment particulière dans les imaginaires. Et ce qui est drôle, c'est que ça se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, vous avez 20 ans, vous n'utilisez déjà plus le courrier depuis très longtemps, mais il y a une transmission par vos aïeux, par les grands-parents qui témoignent de cette aura du facteur un peu embellie aujourd'hui dans les conditions, mais qui jouit encore d'une popularité incroyable.
Muriel Leroux, sur cette figure-là du facteur ou de la factrice et sur cet emblème finalement qu'incarnent ces personnages-là.
Socialement, culturellement, c'est le seul personnage de l'État qui relie les familles, les amoureux, les hommes et les femmes entre eux. On n'a pas d'autre usage aussi démocratique et aussi accessible avant que les années Pompidou n'installent le téléphone dans le plus grand nombre de foyers français. Donc, que vous soyez posté à Paris ou que vous soyez posté à Saïgon lorsque vous êtes militaire, comme le disait votre chanson américaine, Postman, le facteur, le postier, c'est quand même... la postière, ce sont les personnels qui nous donnent à rire, à pleurer, hein, puisque Sébastien Richez évoquait les femmes, mères, épouses, sœurs et filles qui attendaient des nouvelles des militaires mobilisés. C'est aussi celui ou celle qui annonce la réussite à un concours, la confirmation d'un extrait d'acte de naissance lorsqu'on a des problèmes avec l'état civil. C'est vraiment la personne qui est le lien avec l'extérieur dans ce qu'il a de bon et de mauvais.
Sébastien Richez, Muriel Leroux évoquait à l'instant la généralisation du téléphone, la démocratisation du téléphone, ces moyens de communication un petit peu modernes. On a souvent dit qu'ils allaient enterrer le courrier, et le courrier a été annoncé pour mort plusieurs fois. Ça a commencé dès le 19e siècle. Racontez-nous un petit peu ces multiples annonces de mort du courrier postal.
À la découverte de l'électricité, un penseur du futur, Albert Robida, imaginait déjà que l'électricité transporterait des flux d'informations directement auprès des Français, et que le facteur qui faisait sa tournée en France quotidiennement seulement depuis 1864, donc une trentaine d'années que les Français voyaient ce personnage tous les jours, commençait déjà à imaginer qu'il disparaîtrait très vite à cause de l'électricité. Il n'en a rien été. Deuxième choc et danger funeste de la technologie pour la Poste, c'est la télématique informatique dans le sillage du téléphone, où on estimait, je cite le rapport Mink-Nora de 78 qui est délicieux, les télécoms priveront à terme les postes de leur activité la plus rentable, à savoir le transport du courrier institutionnel et commercial. Donc, deuxième annonce funeste. Et finalement, ces moyens, ces nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'époque ne vont pas entamer la croissance du courrier qui va grossir jusqu'à 25 milliards d'objets au début du 21e siècle. Non, c'est vraiment le digital, le numérique et la dématérialisation qui donnent un coup funeste à l'objet courrier, d'abord parce que l'État va désengager l'essentiel de sa communication et de l'échange entre lui et les citoyens usagers, les feuilles de soins, les impôts, etc., etc., vont être dématérialisés, les entreprises vont suivre dans ce sillage, et je l'ai dit tout à l'heure, le courrier interpersonnel ne représentait que 30% dans les années 60, au début du 21e siècle, c'était moins de 5%. Donc la partie était déjà perdue pour le courrier dans les relations interpersonnelles. Donc on voit que c'est un processus progressif qui nous fait anticiper. Les prospectivistes annoncent un courrier entre 3 et 4 milliards d'objets à la fin de cette décennie. C'est une division par 8 pour l'institution. Donc on peut comprendre les mois et les questions de réorganisation et de survie de cette institution pluricentenaire.
Muriel Leroux, alors certes, Internet est en train de mettre à mal avec la dématérialisation les échanges postaux. En revanche, on peut penser au fait que la Poste est encore en charge de nombreux colis. Internet a remis au goût du jour, le commerce à distance et le commerce en ligne. Là, c'est encore bien sûr sur la Poste que ça va se reposer. Alors bien sûr, on ne parlera plus d'échanges forcément écrits, mais les colis vont rester quand même centraux dans les tâches de la Poste à venir.
Alors oui, absolument, vous avez tout à fait raison, même si c'est véritablement pour les opérateurs historiques la pandémie de Covid qui a officialisé partout dans le monde la mort programmée du courrier. En revanche, le modèle économique à développer pour ces opérateurs postaux historiques est extrêmement complexe, car vous imaginez le chiffre d'affaires d'un carton que vous recevez pour une paire de chaussures et qui, à sa place, était rempli de lettres. Or, c'est vraiment cette pandémie qui a fait toucher du doigt, notamment les acteurs des tutelles de ces opérateurs historiques, la nécessité de prendre en compte pour les démocraties, pour les citoyens, la fin de cet objet qui, à mon sens, même si plus personne ne va écrire un courrier quotidiennement, n'a pas nécessairement dit son dernier mot, comme on l'a entendu hier, la Poste qui française, qui est toujours chargée de l'application du service universel, propose de nouveaux services hybrides avec l'envoi de messages, l'impression de courrier sur le lieu, à proximité du lieu du destinataire, dans un temps record, le maintien des courriers recommandés, le maintien de quelque chose que nous n'avons pas évoqué, le cachet de la poste faisant foi, c'est-à-dire lorsqu'on va avoir besoin de documents officiels. Donc, on va avoir, pour le moment, la continuation de tous ces services. Mais aussi, peut-être qu'on peut être un tout petit peu optimiste et transférer au courrier ce qui s'est produit pour le disque vinyle. Et peut-être que les amoureux, les poètes, les romanciers vont reprendre leurs plumes et continuer à échanger. La chute du nombre de cartes postales est réelle, un objet du 19e siècle s'il en est, mais n'a pas disparu.
Il n'a pas disparu, et ça tombe bien, c'est l'été, ce sera le mot de la fin. Je vous invite toutes et tous à envoyer plein de cartes postales à vos proches cet été. Merci beaucoup à tous les deux, Muriel Leroux et Sébastien Richesse, d'être venus nous raconter cette histoire du courrier postal. Love Letters par Métronomie pour conclure joliment en musique cette émission sur le courrier. Un grand merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Loïc Dutoit, Garance Prema-Agnolo, Nicolas Berger à la réalisation accompagnée de Sam Bakiast, à la technique aujourd'hui Marie-Claire Oumabadi. Vous pouvez comme chaque jour réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans le grand bain de Reka et d'ici là n'oubliez pas, tout reste à découvrir.